La lecture qui va suivre est tirée du 12e chapitre de la lettre de Paul aux chrétiens de Rome. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a quelques 2000 ans que l'apôtre Paul a rédigé ces lignes pleines de ferveur et de supplications. Nous verrons qu'elles n'ont pas vieilli. L'apôtre rappelle aux chrétiens qu'ils appartiennent à un Dieu auquel ils doivent tout. Non seulement ce qu'ils possèdent, non seulement ce qu'ils sont, mais aussi ce qu'ils peuvent devenir, leur présent et leur avenir. La vie du chrétien doit tendre vers ce seul but qui oriente et éclaire toute sa vie, plaire à son Dieu. C'est ce que l'apôtre appelle un culte raisonnable. Or, un tel culte ne se contente pas d'une certaine attitude intérieure, il marque et embrasse tous les actes, tous les aspects de la vie. Ainsi, la vie chrétienne se confond avec la vie. En fait, c'est à cette condition-là qu'elle est vraiment la vie, telle que le Créateur la conçoit pour sa créature. La vie de chaque homme, notre vie à tous, est comparable au voyage qu'effectue un navire sur l'océan de l'existence. Tous ces navires ne suivent pas le même itinéraire. Ils ne naviguent pas tous de la même manière. Il y en a qui prennent le cap du plaisir. Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons, c'est leur philosophie. Il y en a qui se dévouent à une cause quelconque. Ils ont besoin d'un idéal et ils mettent le cap sur lui. Cet idéal devient leur but dans la vie. C'est leur Dieu. Il y en a qui n'ont pas d'itinéraire précis. Ils se laissent aller à la dérive, emportés par tous les courants. Ils sont comme une coque sans voile, sans but, sans gouvernail, sans port, sans vie. Ils ne gênent personne. Ils ne se font pas particulièrement remarquer. Ils sont là, ils existent, c'est tout. Et puis, dans ce même océan de la vie, il y a ceux qui ont pris conscience du Christ et de son message. C'est à eux que s'adresse l'apôtre Paul pour leur rappeler les règles d'une bonne navigation. Ils ont compris que pour réussir leur vie, pour mener leur barque à bon port, il faut mettre le cap sur celui qui a dit « Je suis le chemin ». Leur gouvernail, c'est sa parole. Ils veillent à ne pas se laisser entraîner dans le sillage des autres qui ont choisi une autre direction. Ils tiennent ferme la barre, par la prière, par la lecture de la parole et par le contact avec ceux du même équipage, pour ne pas dévier et pour faire provision de force en cas de gros temps. Ils savent que tout autre itinéraire que celui qu'ils ont choisi, toute autre attitude, les conduirait au naufrage. Alors, ils demeurent lucides et attentifs. C'est par comparaison avec leur ancien état que l'apôtre Paul écrit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ou de votre jugement, car il s'agit vraiment d'une transformation. C'est un devenir nouveau par le choix d'un nouvel itinéraire, d'un nouveau cap, d'un nouveau but dans la vie. Et cette transformation s'effectue avec l'aide de l'Esprit que Dieu donne à chaque converti. Notons en passant que le mot « conversion » suggère précisément l'idée d'une transformation, d'un changement d'état. Dans sa lettre aux chrétiens de Corinthe, l'apôtre Paul aborde le même thème en disant « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Ne vous conformez pas au siècle présent. L'apôtre connaissait bien l'attrait que le monde peut exercer sur une âme. À la fin de presque toutes ses lettres, Paul mentionne ses compagnons d'œuvre qui luttent avec lui pour l'Évangile. C'est ainsi que les salutations finales de sa lettre aux Colossiens et de celle adressée à Philémon mentionnent un personnage nommé Démas. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Mais c'est dans sa lettre à Timothée que Paul laisse poindre sa détresse dans un appel profondément humain. « Viens au plus tôt vers moi, lui dit-il, car Démas m'a abandonné, par amour pour le siècle présent. » Démas avait changé de cap. Il s'était laissé entraîner par des courants faciles et trompeurs. Le siècle des premiers chrétiens était dominé par l'Empire de Rome. Dans son histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, l'historien anglais Gibbon note quatre raisons majeures qui ont précipité la chute de Rome. Tout d'abord, la détérioration de la cellule familiale, l'augmentation du taux de divorce, Deuxièmement, amour des jeux brutaux et du sang. Troisièmement, dépenses excessives et extravagantes du gouvernement. Quatrièmement, épouvantable corruption des mœurs. Ainsi, les civilisations, les unes après les autres, se sont écroulées. Parmi celles qui se sont succédées depuis le début de l'histoire, nous savons que quelques-unes seulement ont succombé sous des coups venus de l'extérieur, toutes les autres ayant été leurs propres exécuteurs, minés intérieurement par un lent pourrissement. Le penseur Michel Coast, en écrivant ces lignes, nous ramène brusquement à la réalité. Pourquoi serions-nous épargnés en tant que civilisation si nous nous comportons sur le plan individuel exactement comme ceux qui nous ont précédés et qui se sont détruits eux-mêmes? Dans notre siècle moderne, il est aussi question de désintégration intérieure et d'un pourrissement de l'homme lui-même. Les plus grands savants et moralistes, du moins ceux qui croient à la prééminence de l'esprit sur la matière, sont unanimement inquiets et l'humanité elle-même commence à réaliser l'importance du danger. Certes, insiste encore Michel Coast, notre civilisation est en danger, mais non pas tant à ses frontières géographiques qu'aux frontières même du cœur humain. Le ver rongeur est à l'intérieur, il gagne, inexorable, appâté par les facilités du monde moderne qui offre au corps la jouissance de la chair, à l'esprit l'orgueil de la puissance. L'homme demain visitera peut-être les planètes, nos voisines, mais quel sera le contenu de cet homme? C'est pour cela que l'exhortation apostolique est tout aussi valable aujourd'hui qu'il y a 20 siècles. Ne vous conformez pas au siècle présent, parce que les aspirations du monde en général ne sont pas compatibles avec l'idéal chrétien. N'est-il pas temps de rendre à l'homme conscience de son âme et de sa valeur réelle? Il ne s'agit pas de s'échapper du monde ou d'en condamner les réalisations. Il faut seulement et surtout ramener les hommes à la raison, en commençant par soi-même. Jésus n'a-t-il pas dit « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même ? » Nous vivons dans un monde en ébullition. Nous nous sentons parfois dépassés et frustrés. L'écrivain Bernard Shaw remarque ironiquement « On a l'impression que si les autres planètes sont habitées, cette Terre doit leur servir d'asile d'aliénés. » On osera à peine penser que cette ironie est déplacée. Nos oreilles sont remplies du bruit de ce monde. Nos narines sont remplies des poussières de ce monde. Nos yeux sont remplis des lumières trompeuses et aveuglantes de ce monde. Mais nos cœurs et nos âmes sont vides et assoiffés. Insensiblement, nous subissons l'influence de tout ce qui est spectaculaire, grandiose, colossal, extraordinaire, sensationnel. Les journaux savent exploiter en nous ce goût du grand et du gros, en étalant leurs titres à sensation. Si nous nous laissons écraser par les réalisations extraordinaires qui marquent notre siècle, nous risquons de perdre de vue l'objet de notre foi. Nous risquons de changer de cap et de nous enfoncer dans la nuit du naufrage. Chers amis, il est indispensable de faire cet effort qui consiste à concentrer notre attention sur des choses à la fois plus discrètes et plus fondamentales. Arrêtons-nous ici pour faire une réflexion. Il y a 2000 ans environ, le monde entier était subjugué par l'aigle romain, fier, dressé, indomptable, image même de la puissance et de la gloire. De formidables événements s'étaient produits et de gigantesques entreprises étaient en cours. Pourtant, à cette même époque, il y avait quelque part en Palestine une étable dans laquelle un enfant venait de naître. Au sein du bruit et de la puissance de son siècle, ce nouveau-né constituait l'événement le plus considérable de toute l'histoire de l'humanité. Mais les hommes l'ont dédaigné. Il est bon à ce point de se souvenir des prédications véhémentes de l'apôtre Paul, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Par quoi ou par qui notre attention est-elle irrésistiblement attirée? Quelles sont pour nous les questions les plus importantes, les plus fondamentales, celles qui constituent l'essentiel? Si dans ce choix, nous nous laissons guider par le bruit, par le grand et le gros, nous passons à côté de la vérité. Souvenons-nous des mages qui sont venus d'Orient. Ils n'ont pas cru en Hérode et en son temple. Pas plus qu'ils ne sont venus pour admirer les légions de César. Ils sont venus de loin parce qu'ils ont cru au nouveau-né. Ils ont cru à l'essentiel. Plus que jamais, il faut écouter la voix de celui que les prophètes appelaient « admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix ». Celui qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis la lumière du monde, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort ». quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Ceux qui s'attachent à ces valeurs, comme à l'essentiel, s'abritent contre le vent de folie qui souffle sur le monde. En fait, ils constituent les clous solides et sains qui tiennent en place toute la charpente. L'écrivain Jules Vallès fit un jour cette remarque « Combien j'en ai vu de ces jeunes gens dont un passage lu un matin a dominé, défait ou refait, perdu ou sauvé l'existence. » Il parlait d'œuvres humaines. Chers auditeurs, aujourd'hui je prie encore que certains passages que nous lisons ici chaque semaine puissent avoir sur vous ce même effet, cette même puissance de révélation, avec toutefois cette garantie que les hommes et leurs œuvres ne peuvent pas donner. C'est que la parole de Dieu ne peut ni vous défaire ni vous perdre. Elle ne peut que vous transformer pour vous sauver.